Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau podcast, aujourd'hui consacré au sentier de la côte ouest, le West Coast Trail. J'invite à cette occasion Alexandra. Bonjour Alexandra.
Bonjour à tous.
Bonjour. Donc le sentier de la côte ouest, c'est un sentier de randonnée parcourant 75 km de la côte sud-ouest de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. Donc c'est un sentier qui est construit en 1907 pour faciliter le sauvetage et l'évacuation des naufragés le long de cette côte. De nos jours, donc, il fait désormais partie de la réserve de parc national Pacific Rim et est souvent considéré comme l'un des meilleurs sentiers de randonnée du monde. Donc, le sentier de la côte ouest est ouvert du 1er mai au 30 septembre. Il est également donc accessible en dehors de cette période, mais Parc Canada ne garantit pas la disponibilité de ses services. À savoir aussi que le sentier relie Bumfield près de Barclay Sound à Port-Renfrew sur la baie de Port San Juan. Donc le sentier aussi de la côte ouest nécessite à peu près 5 à 7 jours de randonnée. On va élaborer cette partie-là avec Alexandra plus tard. Donc il est donc nécessaire d'y passer plusieurs nuits et un permis de camper est indispensable à toute personne souhaitant passer au moins une nuit sur le sentier. Et juste pour finir, sa longueur et les conditions environnementales en font un sentier particulièrement difficile. Donc Parc Canada rapporte que chaque saison, 200 randonneurs subissent des blessures légères. Et 70 à 100 personnes sont évacuées à la suite de blessures très graves. Donc aujourd'hui, on va discuter de tout ça ensemble, Alexandra. Alexandra a eu l'occasion donc de parcourir ça en septembre dernier, en septembre 2019. Donc on va réaliser le premier podcast interview tous les deux. Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter brièvement?
Bien sûr. Donc je m'appelle Alexandra, j'ai 30 ans. J'aime beaucoup tout ce qui est randonnée et plein air. J'ai plus de motivation que d'expérience pour l'instant, mais avec le temps, l'expérience viendra.
Donc, est-ce que tu pourrais nous dire tout d'abord pourquoi le West Coast Trail en fait? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette randonnée et pourquoi tu t'es orienté sur ce sentier-là plus particulier?
Donc, c'est un sentier, comme tu l'as dit, qui est d'une longueur que je trouve assez raisonnable, une grosse semaine en gros. Et donc, je trouvais ça intéressant d'une part, qui est facile quand on n'a pas beaucoup de congés. Et puis, c'est un sentier dont on m'a quand même pas mal parlé, que j'ai découvert aussi à travers des livres. Donc, voilà, il m'a bien tenté.
T'avais envie de te lancer dans ce sentier-là. Et juste aussi, je crois que pour la petite anecdote, je pense que c'est le sentier Parc Canada qui est le plus à l'ouest du Canada. Je crois que j'avais vu ça. Et donc c'est un petit peu aussi l'occasion de faire quelque chose qui est vraiment à l'extrémité ouest du pays.
Exactement, c'est un sentier qui longe vraiment toute la côte pacifique la côte pacifique de l'île de Vancouver. Donc on est vraiment à l'extrême ouest. Et apparemment, il y a son équivalent à l'est, mais bon, ça sera pour une prochaine
Une
aventure.
prochaine aventure de faire les deux extrémités est-ouest au Canada. Ok. Comment tu as pu procéder pour trouver des informations? Si vraiment des gens qui nous écoutent là se disaient, mais ouais, vraiment, j'aimerais vraiment me lancer là aussi là-dedans. Comment trouver des informations viables et intéressantes? Comment tu as fait toi?
Alors, d'abord, j'avais un livre de randonnée qui répertoriait les plus belles randonnées du monde, en toute modestie. Et donc, il y avait quelques informations dans ce livre. Et ensuite, un de mes collègues aussi s'était quand même pas mal intéressé à cette randonnée. Donc, puis j'ai cherché en fait sur Internet, je pense que c'est la meilleure source. Et une des meilleures sources sera le site Internet de Parc Canada sur ce sentier. Qui répertorie vraiment toutes les infos, le matériel qu'il faut, la topologie du terrain.
Ok, donc là, vraiment tout ce qui est les sources les plus fiables, ça serait vraiment Internet. Après, tu t'es pas vraiment posé la question de chercher sur des groupes Facebook ou autre. Pas spécialement,
Non,
ça
pas de groupe
suffisait.
Facebook. J'ai lu quelques blogs de personnes qui l'avaient déjà fait. Mais voilà, principalement vraiment le site internet de Parc Canada qui est très complet.
Ok, bon, mais c'est très bien, ça répond un petit peu à ce que les gens pourraient se poser comme question et où trouver les informations. Donc comment tu t'es organisé après, en amont, on va dire, de la randonnée, juste avant de démarrer, quelques mois avant? Qu'est-ce que ça a pris en termes d'organisation, soit matériel, mais aussi, j'imagine, logistique et tout ça. Comment tu as procédé un petit peu en avance?
Donc c'est un sentier qui est assez prisé, donc il faut pour y accéder un permis. Donc il faut quand même le réserver assez à l'avance. Le sentier, donc tu as dit, ouvre en mai. Et je conseille aux gens, pour avoir les dates vraiment qu'ils veulent, de commencer à réserver dès le mois de janvier. Parce que c'est voilà, les places partent très vite et après on n'a plus vraiment le choix sur sa date de départ, dans quel sens faire la randonnée, parce qu'il est possible de le faire du nord au sud ou du sud au nord. Donc il y a ça qu'il faut prévoir quand même pas mal à l'avance. Et ensuite sur le matériel, accumuler un peu tout le matériel qu'il faut en amont. Donc c'est un petit budget pour avoir du matériel de qualité, mais c'est faisable.
Et si on parlait un peu de matériel, donc toi t'as considéré quoi? Parce que justement là on en entend parfois parler comme être un sentier compliqué de par sa météo en fait. Je l'ai dit en introduction un petit peu, c'est un sentier assez connu mais qui est classifié comme étant difficile. Donc suite à ce que tu as pu lire sur internet et sur le site Parc Canada, comment tu t'es préparé en termes d'équipement? En gros, c'était quoi un petit peu l'inventaire de ton sac à dos dans les grandes lignes et comment tu t'es préparé à ce sentier-là plus particulièrement?
Oui, donc dans mon sac à dos, j'ai un sac à dos très léger, qui n'a pas d'armature, dont la coque est à peu près étanche. Donc ça aide pas mal parce que c'est vrai que c'est un sentier très humide et il peut y avoir des jours et des jours de pluie. Ensuite, j'avais des chaussures étanches qui ont résisté le temps qu'elles pouvaient. J'avais des guêtres qui montaient jusqu'aux chevilles, mais en fait, je me suis rendu compte que il en faudrait en fait presque qu'ils montent jusqu'au-dessus du genou. Ensuite, j'essayais de protéger tous mes habits à l'intérieur dans des sacs étanches pour avoir quelques habits secs, surtout le soir. Puis j'avais en termes de matériel une tente autoportante qui tenait avec mes bâtons de randonnée, une tente une place qui a très très bien résisté aux intempéries, donc ça c'était très agréable le soir. Et pour les gros autres items du sac, j'avais un matelas accordéon de Thermarest qui coûte une 45 $ en gros. Et ensuite, un sac de couchage Nunatak, qui est une marque américaine, il me semble, qui est très très chaud et qui genre m'a vraiment réconforté les soirs de pluie. Et
ok. Voilà. Donc là, tu avais à peu près un sac de couchage de moins 7 degrés, je crois.
Ouais.
C'est ça à peu près. Et ça a suffi sur le sentier? Est-ce que ce que tu t'avais lu un petit peu sur Internet, c'était un 3 saisons, ça suffisait en termes de sleeping?
Oui, ça suffisait. Il faisait pas vraiment très froid. Ça s'est jamais descendu en dessous des 10 degrés, je pense.
Okay.
Donc, c'est juste l'humidité qui est vraiment qui est assez challenging. Mais tant qu'on garde tout son équipement au sec.
Ok, donc la clé, c'est l'humidité. Pourtant, c'est ça, il y a la proximité de l'océan. C'est toujours en côte, bord de mer, on va dire. Puis donc, c'est ça, c'est vraiment l'humidité. Donc, le fait que ce soit un sleeping en duvet, ça n'a pas été un problème pour toi. Et tu as toujours très bien dormi dans le setup que tu avais, tente, sleeping.
Ouais, non, j'ai jamais eu de problème d'humidité à l'intérieur de ma tente, ni avec mon sac de couchage que je. Je prenais vraiment soin de le protéger dans un sac, poubelle. Peut-être que pour des gens qui seront un peu plus organisés, j'achèterai peut-être un sac étanche rien que pour le sac de couchage, qui sera certainement plus solide qu'un sac poubelle. Mais
pour la durée,
ça a fait la job.
Ok, parfait. Donc ensuite, donc tu l'as dit, des chaussures Gore-Tex, j'imagine aussi Gore-Tex en haut. Est-ce qu'il faut un parapluie par exemple? Est-ce que tu recommanderais d'avoir quelque chose pour te protéger de la pluie? Parce que ça, tu dis que la météo, c'est vraiment un issue.
Donc nous, on a eu quand même 3 jours de pluie non-stop. Donc j'avais des chaussures soi-disant étanches, mais au bout d'un moment, quand t'as les pieds dans les flaques toute la journée. L'étanchéité n'était plus vraiment là. Les guêtres, ça a servi une journée aussi, mais après, j'avais de la boue jusqu'au genou, donc ça ne servait plus à rien. Et après, j'avais un Gore-Tex, Eli Hansen, pour protéger de la pluie, donc ça a quand même pas mal été efficace.
Ah ouais?
Mais je ouais non il y a quand même l'humidité passe quand même malgré cela donc pas non je conseillerais pas de parapluie parce que les chemins sont assez étroits.
Ok.
J'avais une casquette pour me protéger de la pluie qui me venait dans les yeux, donc ça peut être utile ouais, sous la capuche.
Ok. Et des bâtons de randonnée.
Et les bâtons de rando. Ouais.
Là, tu l'as dit, ça c'était intéressant pour c'était obligatoire pour la tente ouais. autoportante. Mais t'as aimé ça marcher avec des bâtons ou tu le conseilles sur ce genre de sentier accidenté là?
Oui, c'est un sentier qui est avec les conditions qui étaient quand même très glissants, beaucoup d'énormes flaques d'eau. Debout, donc moi ça m'a quand même pas mal aidé pour garder un peu ma stabilité.
Ok.
Donc oui, je conseille quand même des bâtons de randonnée pour ce sentier-là.
Ok, parfait. Donc là, ça fait un peu le tour ça du matériel. Juste avant qu'on essaye d'aller plus dans l'expérience elle-même, jour après jour, de comment tu as vécu la randonnée, on le disait en introduction, c'est un sentier très isolé. Est-ce qu'il y a des choses à considérer pour se rendre là-bas, en fait, sur l'île de Victoria et sur le sentier, en fait comment tu vas là-bas, en fait? Comment tu te rends jusqu'au départ?
Oui, alors, il faut prendre un vol, soit jusqu'à Vancouver, soit jusqu'à Victoria. Okay. Et après, de Vancouver, prendre un ferry jusqu'à Victoria. Et ensuite, de Victoria, il y a des navettes qui sont organisées pour aller... de chaque bout du chaque côté du sentier de randonnée.
Okay.
C'est un bon petit budget quand même à pas négliger. Mmh. Et ensuite voilà, on s'est rendu au nord du sentier au début pour démarrer le...
Okay. Donc tu peux le faire, c'est ça, comme tu disais, dans les deux sens, ça, les gens doivent le savoir aussi, c'est que c'est un sentier que tu peux faire. Ça va dépendre de quand tu vas réserver ton permis, mm-hmm. Quelles sont les places disponibles dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que tu le recommandes aux auditeurs de faire plutôt nord-sud, sud-nord? Pourquoi, comment toi, tu regrettes de l'avoir fait dans ce sens? T'es content de l'avoir fait dans ce sens-là?
Moi, je suis plutôt contente. Les gens disent que commencer par le sud, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus d'échelles, il y a plus de... C'est un peu plus pentu.
Accidenté.
Dès le début? Dès le début, ouais. Okay. Nous, on l'a fait à la fin, donc on était déjà bien rodés sur les 5 premiers jours de randonnée. Mais moi, j'ai bien aimé le faire du nord au sud pour commencer un peu plus tranquille et...
Okay.
Une sorte de montée en puissance pendant la semaine.
Ok, ouais, t'as eu l'impression vraiment de commencer plus facilement, on va dire, et puis finir par une partie plus technique.
Ouais, avec un sac plus léger.
Oui, ouais, il y a cet aspect-là aussi, ouais, complètement. Ouais. T'arrives dans une partie où c'est plus technique, avec un sac beaucoup plus léger, parce que t'as comme consommé toute ta nourriture déjà.
Mm-hmm,
donc ça peut être assez intéressant. Ok, ouais. Ok, donc ça sera à chacun de juger ça, mais s'il y a des places nord-sud, ça peut être intéressant de le considérer dans ce sens-là. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, dans les grandes lignes, mais presque jour par jour, comment tu as vécu ta randonnée? Donc quand on commence nord-sud dans le sens que tu l'as fait, c'était quoi ta première journée par exemple? Comment ça s'est passé?
Donc
en première...
il faut, dans tous les cas, il faut commencer par une session d'orientation organisée par Parc Canada qui est obligatoire, et c'est à ce moment-là en fait qu'ils vont vous remettre le permis pour accéder au sentier.
Okay.
Donc lors de cette séance, ils vont nous parler de tout ce qui est sécuritaire sur le sentier, la vie sauvage, ce qu'il faut faire en cas d'accident, et un bref aperçu en fait de tout ce qui nous attend, et surtout aussi une petite séance pour apprendre à lire les marées.
Ah oui?
Oui, parce que c'est un sentier, donc on marche à la fois sur les plages et le long de la côte. Donc il y a des sections du sentier qui ne sont pas accessibles à certaines périodes de la journée en fonction des marées.
Okay.
Donc ils nous remettent une carte pour savoir quel chemin est accessible et ensuite à nous de regarder à quelle heure on peut y passer ou pas. Donc ça, il faut quand même une petite introduction
pour pas se tromper. Ok, donc là toi tu procédais de la manière, tu regardais un petit peu la carte avant, j'imagine, tu te faisais un petit peu une idée de la journée prochaine que tu voulais faire, tu regardais les horaires à peu près matin, midi, après-midi.
Ouais, exactement, la veille on essayait de se faire un petit plan d'action pour la journée, voir si on pouvait passer par tel endroit ou alors s'il fallait l'éviter.
Ok. Et j'imagine qu'avant de démarrer le sentier, la randonnée en elle-même, tu avais déjà une idée à peu près du kilométrage que tu voulais faire en 6-7 jours. Et est-ce que toi, tu l'as fait en 6 jours, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, on l'a fait en 6 jours. Ils disent entre 5 et 7. Je dirais que 5, c'est quand même très, très challenging en fonction des conditions. Mais si on veut un peu profiter de la rando, je dirais 6 ou même 7 jours, ça serait peut-être plus agréable.
Ok. Pour
des
gens
qui seraient... rusher, en fait.
Pour pas rusher, ok. Pour prendre moins de risques, parce que comme tu disais, c'est très accidenté.
Oui, exactement.
Et tu peux facilement, puis je le disais en introduction, là, des 70 à 100 personnes par an avec des blessures très graves. Donc c'est quand même assez important. Même si c'est un sentier qui est très passant, quand même 70 à 100 personnes, c'est assez énorme. Ok, et donc les autres jours, donc début assez simple.
Oui, donc le premier jour, on a fait entre 10 et 12 km. On a commencé... plutôt dans les terres, pour finir, donc c'était assez roulant, le sentier était encore sec, donc j'avais un peu d'appréhension parce que c'était le début d'une semaine, d'une longue semaine, mais le sac à dos était lourd, donc la première journée j'étais un petit peu stressée parce qu'il allait m'attendre, mais au fur et à mesure j'ai pris confiance et puis ça s'est plutôt très bien passé. Donc après, en sortant de ces 10 km, je dirais, de forêt, on a fait un tronçon de 2 km sur la plage avant d'arriver au premier site de campement, qui est un campement délimité par Canada.
Ok, donc ça, tu le vois sur la carte, c'est comme un point renseigné?
Oui, alors sur la carte qui est quand même vraiment très, enfin, qui est très bien faite, il y a tous les sites de campement qui sont désignés par Parc Canada, où il y a tous les... qu'il y a des, il y a des toilettes sèches, il y a des caissons.
Pseudo-infrastructures,
ouais,
en fait.
Oui, pseudo-infrastructures, c'est vraiment très basique. Mais il y a des petites commodités, des bacs pour storer la nourriture pour pas que les ours viennent nous déranger la nuit, ouais. Voilà.
Ok. Donc tout ça, c'est sur la carte.
Oui.
Et ça, j'imagine que tous les randonneurs, parce qu'il y a un nombre limité de randonneurs par jour, c'est ça que Parc Canada, laisse partir. Et donc ça, c'est suffisant pour tous les randonneurs que tu as vus sur le sentier.
Oui. Après, il y a quand même des campements assez régulièrement, donc les gens vont pas tous au même endroit. Donc, ce qui permet de ne pas être trop tous agglutinés sur les mêmes sites de campement.
Ouais.
Et oui, il y a un nombre limité de départs par jour. Donc, ça fait en sorte que le sentier, ce n'est pas non plus une allée complètement passante. Donc, on a quand même ce sentiment d'être seul au milieu de la nature.
Ok. Mais juste si les gens qui nous écoutent là, se posent la question, tu ne peux pas dormir vraiment où tu veux, enfin... De par la structure un petit peu du terrain, c'est très difficile en fait de mettre ta tente où tu veux. Il faudrait quand même, c'est pour ça qu'il y a quand même souvent des sites de camping et il faudrait idéalement prévoir ça.
Oui, il est possible de dormir en dehors des sites de campement, mais après il faut quand même bien se renseigner si vous voulez dormir sur la plage, s'il n'y a pas une marée qui viendrait vous déranger au milieu de la nuit. Dans la forêt, c'est très compliqué parce que les sentiers sont très étroits et la forêt est très dense autour, donc il n'y a pas vraiment d'endroit déblayé pour y poser la tente. Donc je recommande plutôt de rester sur les sites de campement. Et y a des soirs où on était seul à camper sur les sites, donc il n'y a vraiment pas de...
Donc il n'y a pas de rush.
Il n'y a pas de rush. C'est pas... Il n'y a pas trop de monde, quoi.
Ok, moi, c'est parfait. Ouais. Donc ça, en fait, c'est ça. Là, quand tu réserves ton permis, tu dois choisir une date de départ. Et c'est eux, grâce à cette date de départ, qui vont dire, ben voilà, il y a un nombre, je ne sais pas exactement, de tant de personnes qui peuvent démarrer par jour. Et en fait, c'est limité par le nombre de permis qu'ils accordent, tout simplement.
Exactement,
en fait.
Ouais.
Okay, je comprends un peu mieux. Ok, puis ensuite, donc les autres jours, un peu comment ça s'est passé en termes de météo, de terrain. Parce que là, on a bien compris, tu as commencé lentement... En termes de kilométrage, sac très lourd, mais puis après, comment ça s'est passé?
Ensuite, deuxième journée, à peu près le même kilométrage, mais la météo a commencé à se gâter en fin de journée. Et c'est vraiment détérioré dans la nuit où ça a été un déluge. On campait sur la plage à côté d'une magnifique cascade et en même temps, il y avait l'océan Pacifique en face, mais qui était complètement déchaîné. On a dû se lever très très tôt parce que tout prenait l'eau. On est parti avant le lever du jour même. Donc là, c'est là où les choses ont... Enfin, les choses. La météo a commencé à se gâter et notre troisième jour, on entamait notre journée la plus longue. 16 kilomètres, qui en soi, c'est pas un kilométrage énorme, mais le sentier est tellement accidenté que on va pas à plus d'un kilomètre et demi par heure, donc ça nous a pris vraiment beaucoup de temps.
16 km, ça peut être une journée complète de randonnée, là, c'est pas une demi-journée de rando, là.
Oui, là, ça a été une journée vraiment complète, on s'est quasiment pas arrêté, et on est quand même arrivé à la tombée de la nuit au site de campement numéro 3, oui.
Ok, donc même les gens qui nous écoutent, qui se disent j'ai un bon niveau de randonnée et je suis préparé à ça, il faut se préparer à pas pouvoir faire du 45 km par jour là.
Non,
C'est
c'est
impossible.
impossible.
C'est juste trop accidenté en fait.
Ouais, c'est très accidenté, il faut vraiment faire attention. On met les pieds, il y a des changements de terrain partout. Puis on traverse beaucoup de criques, il y a beaucoup de rivières qui traversent le chantier, donc le sentier, pardon. Donc il faut. Il y a soit des, comme ils appellent, des cable cars qui traversent. Donc ça prend du temps à se mettre en place, à se tirer jusqu'à l'autre rive. Sinon, c'est beaucoup d'échelles, donc on passe des heures à faire juste quelques mètres en linéaire, mais en fait, on a descendu une vingtaine d'échelles pour en remonter une quinzaine d'autres, donc ça,
C'est très lent.
c'est très très lent, mais
Ouais.
ça vaut le coup.
Ça vaut le coup, mais c'est ça. Mais sur la carte en elle-même, j'imagine que les bornes kilométriques passent pas très très vite là.
Non, il faut pas être démoralisé par ça, mais non, c'est un sentier lent, mais c'est tellement beau
C'est challenging.
que ouais, c'est pas très grave.
Ok, donc là la météo c'est toujours pas amélioré. Troisième jour, quatrième jour, à peu
Troisième
près.
jour, quatrième jour, il me semble quand même jusqu'au cinquième jour, il a plu.
Et là tu dois continuer là.
Mais là, il faut continuer parce que au milieu de nulle part et que il y a un point de sortie, mais bon, c'est des conditions difficiles, mais on va pas abandonner pour ça, donc
Ok.
on continue. Ouais, on a continué. Tout était trempe, mais c'est pas
Ok.
grave.
Donc, en fait, ça m'amène un petit peu à ma prochaine question. Est-ce que tu as trouvé quelque chose de difficile? Et c'est vrai que là, tu mets vraiment l'emphase sur l'humidité, la météo, c'est mouillé, c'est très lent, c'est glissant. Enfin, il y a tout ce côté. Puis, si on explique un petit peu l'île de Victoria, c'est vraiment la rainforest, là. C'est vraiment très, très humide, très dense. Faune et flore, c'est incroyable. Tu as trouvé ça difficile ou pas? Comment tu as vécu de traverser 3 jours de pluie non-stop dans la tête psychologiquement? Tu peux pas vraiment te préparer à ça. Comment toi tu l'as vécu?
Non, je pensais au début que la pluie, ça allait vraiment me donner un coup au moral, mais en fait, bon, la première journée, je trouve ça, au début c'est rigolo, à la fin c'était un petit peu long, mais après ça fait partie de ce sentier, donc on vit avec et puis on traverse des paysages tellement somptueux que
Ok.
la pluie ne va pas nous démotiver, mais c'est vrai que je pense que l'un des trucs les plus difficiles, c'était le matin de se remettre les habits trempés et froids et de sortir du sac de couchage où on est au chaud et au sec. Donc ça, c'était vraiment le plus difficile.
Ouais. Ok, donc ça c'est vraiment ouais, pour les gens qui veulent se lancer là-dedans, là il faut être préparé à savoir faire des concessions sur son confort,
C'est
sa
ça.
propreté aussi. On transpire, on a chaud, on est plein de boue jusqu'aux genoux comme tu dis, on a des petites blessures aussi peut-être, on glisse, on se fait mal, le corps doit tirer aussi. C'est pas beaucoup
Ouais.
de kilomètres mais...
Non, non, c'est assez challenging physiquement et mentalement sur les conditions dans lesquelles on marche. Mais globalement, moi, je suis tellement contente d'être sur le sentier que
Okay.
ça dépassait tout ça.
Après, faut pas oublier, tu l'as fait fin septembre, presque à la fin de la
Ouais, on était
saison.
vraiment à la fin de la saison parce qu'on a pris les places un peu tard et que
Ok.
il restait que ce créneau-là. Mais
Ok.
c'est vraiment c'est un peu la roulette russe là, la météo sur cette région du monde. Donc faut pas s'attendre à partir en juillet d'avoir 5 ou 6 jours de beau temps. Là, je pense que on est
Ok.
vraiment sur l'océan Pacifique. Donc
Ça peut changer à tout moment.
exactement.
Ouais. Ok, parfait. Bah, ça nous donne un peu une bonne idée de ce que tu as vécu un petit peu pendant 6 jours. Ça n'a pas l'air d'avoir été quand même facile, mais bon, tu l'as complété, donc bravo. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'aspect nourriture. Comment tu as vécu 7 jours, 6 jours, 7 jours de randonnée où voilà, tu croises rien du tout? Comment tu as déjà d'une préparé cet aspect nourriture et comment tu l'as vécu une fois sur le sentier? Parce que ça, c'est quand même un aspect où les gens se posent beaucoup de questions. Comment on part avec 6-7 jours de nourriture?
Oui, donc il y a deux écoles. Soit on prend
Un réchaud,
un
ça?
petit réchaud,
Ouais.
oui, pour manger chaud. Ou alors on fait détremper de la nourriture
Déshydraté.
déshydratée. Ouais. Donc nous, on a pris la deuxième option où on faisait tremper des nouilles chinoises et de la semoule dès l'après-midi pour avoir le repas cuit par l'eau le soir. Donc on mangeait froid. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça de manger froid.
Non.
Donc comment ça se passait? Le matin, on avait plutôt du gruau aussi qu'on trempait dans l'eau avec des petites barres de céréales ou de protéines.
OK.
On avait aussi des tortillas avec du beurre de cacahuète.
OK.
Et pendant la journée, en fait, on ne fait pas vraiment de vrais repas, on mange juste des barres de céréales et des barres de protéines. Et le soir, on mange
Mixture.
notre mixture nouilles semoule. Et je conseille à tout le monde de se prendre un petit remontant. Moi, j'avais un peu de fromage et du chocolat
Pour réconfort.
pour égayer un peu ces repas. Mais globalement, moi, ça m'a pas.
Ouais.
L'aspect nourriture m'a pas dérangé
Il y
plus
a
que
des
ça.
gens.
J'étais contente de manger un burger à l'arrivée, là,
Ouais,
mais.
j'imagine. Ouais.
Mais.
Il y a des gens, là, ça vient vraiment chercher les gens, l'aspect nourriture, de
Non, je
manger
comprends.
régulièrement la même chose d'une, puis de deux, voilà, la diététique est complètement différente. Moi, je le vois donc, en gros, en résumé, c'est ça, c'est des sucres très très rapides de la journée, parce que tu fais beaucoup d'efforts, tu n'as pas le temps de t'asseoir et de rester une demi-heure au même endroit. Donc c'est ça, c'est comme tu disais, des barres de protéines, des barres tendres la journée. Des sucres et le soir c'est plutôt des glucides, des sucres lents où tu vas laisser le temps à ton corps d'assimiler cette nourriture-là. Mais voilà, mais manger de la semoule, je pense que les gens qui vont écouter ça vont se poser la question, vont se dire mais cette fille elle a mangé des nouilles ramen chinoises et de la semoule cette
Pendant
fois
6 jours,
pendant
ouais.
6 jours non-stop et des barres. Et puis voilà, mais est-ce que tu as toujours mangé les mêmes barres? Est-ce que ça t'as trouvé ça compliqué? Des
Non,
choses
on
que t'as pas
avait
aimées?
pris une sélection assez diverse pour pas que ça soit trop monotone. Puis au fil du temps, on se rend compte qu'on a nos préférés quand même.
Ouais, c'est sûr. Donc là,
Donc
tu fais du
c'est
troc.
ça. Alors, on a troqué nos barres de céréales pour avoir nos préférés dans la journée, mais.
Ok.
Donc globalement, ça s'est bien passé à ce niveau-là
Ok.
aussi.
En quoi ça? Et puis, donc, aussi psychologiquement, plus tu avances dans la rando et moins le sac est lourd.
Moins le
Et,
sac est lourd, donc
ouais.
ça c'était.
Parce que ça peut être très très pesant au début, en fait. Ouais.
Ouais.
Ok. Parfait. Bon, bah, c'est super. Ben là, on a couvert quand même pas mal d'aspects de la randonnée, la nourriture, l'équipement, ce que tu as vécu, tout le côté météo. J'avais un point que je m'étais noté, mais c'est vrai que c'est plus l'état du sentier, mais tu en as quand même beaucoup parlé. L'état du sentier est
Ouais, ça
très
dépend
très
vraiment de la
accidenté. La
météo.
météo, et là vraiment, c'est la nature qui décide. Mais comme tu disais, c'est rare que des gens puissent avoir 6-7 jours non-stop de parfait beau temps. Il y a des gens qui sont chanceux, mais
Exactement.
c'est très très rare. Qu'est-ce que tu as pu garder finalement après cette rando? C'est quoi un peu la conclusion de comment tu es revenu déjà d'une de cette randonnée, du point de point de fin? Puis qu'est-ce que tu as gardé après ça?
Mais j'étais vraiment très heureuse d'avoir fini ce sentier. C'était beaucoup d'émotions. C'est un endroit vraiment paisible. C'est juste magnifique à traverser. On a l'impression d'être un peu au bout du monde. Et c'est vrai que revenir après en ville avec les bruits de voiture et tout, c'est vraiment toujours un peu compliqué.
Ouais.
Mais globalement, c'est vraiment une super expérience. Si vous êtes chanceux, vous allez peut-être pouvoir croiser des ours. Il y a beaucoup de lions de mer, il y a beaucoup de vie sauvage et tout. Donc
Ah
c'est
ouais, ok.
vraiment.
Ok, ouais.
Les paysages sont magnifiques. Parfait. Donc je vous recommande.
Ok, donc tu as été vraiment contente de le compléter. C'est quelque chose que tu avais vu dans un livre, on t'en avait parlé, un ami, comme tu disais en introduction, t'en avais parlé. Mm-hmm. Puis là, tu venais de le compléter, quoi. Donc c'était cool et d'arriver à la fin, la ligne d'arrivée. Et...
Exactement.
Surtout que tu croises des gens qui remontent, eux, qui font le sens inverse.
Oui, on croise des gens dans le sens inverse. Oui, c'est assez drôle parce que... Les gens, des fois, se rendent pas compte que ça fait déjà 4 ou 5 jours que tu es sur le sentier. Et puis, ils te croisent et ils te disent « Attention, là, c'est vraiment difficile. » Et puis, tu as juste envie de leur dire « Ouais, mais t'as pas vu ce qui t'attend après. »
C'est ça, parce que là, on fait 15 km, en fait.
Ouais,
toi, t'en as fait 60 sur 75.
Donc, c'est ça. Mais non, c'est sympa aussi de croiser des gens. On a rencontré des gens. Ouais. C'est sympa.
T'as trouvé ça... C'est le fun d'avoir un peu de vie un peu sur le sentier.
Oui, puis... après, le soir, sur les sites de campement, c'est sympa aussi d'échanger avec des gens.
OK.
Avec d'autres personnes, oui.
OK, parfait. Ça, on parle un peu l'aspect, il y a du monde sur le sentier, tout ça. Tu recommandes quand même cette randonnée c'est quelle audience, en fait? C'est quel type de randonneur pour toi? C'est vrai que tu l'as dit, c'était un peu la première fois que tu partais seul, mais... Mais bon, est-ce qu'un novice de la randonnée pourrait partir seul ou pas?
Non, bah déjà c'est une randonnée, je recommande pas forcément de la faire seule parce que c'est quand même très accidenté, donc s'il se passe, s'il y a un petit problème, c'est mieux d'avoir quelqu'un pour appeler les secours. Ça demande quand même pas mal d'équipement, donc je pense que des gens qui découvrent la randonnée, c'est pas forcément le meilleur endroit pour commencer, puis ça peut-être un peu les décourager, mais moi j'ai pas non plus énormément d'expérience, j'ai déjà fait des randos de 3-4 jours, mais ça prend un peu d'habitude de bivouaquer, mais c'est largement faisable, faut un peu de jugeote, faut avoir, ah oui, ce que je déconseille vraiment, c'est les gens qui ont le vertige, ne faites pas cette randonnée.
Ok, donc s'il y a quelqu'un qui nous écoute là, qui peut pas monter sur une chaise...
Non, c'est totalement impossible. Il y a des échelles. Tu te retournes, il y a 30 mètres de vide derrière toi. Donc, si vous avez le vertige, ne faites pas cette randonnée.
Ok, enlevez cette randonnée, votre to-do randonnée.
Exactement.
Ok.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'échelles. Ça, j'en ai pas parlé avec les... Ouais.
Des ponts suspendus,
des échelles qui sont glissantes la plupart du temps parce que... Elles sont en bois et qu'elles ont passé des mois et des mois sous la pluie.
Des années, de la mousse.
Donc,
Donc, il faut quand même respecter certaines règles de sécurité.
Oui, non, c'est pas une randonnée pour quelqu'un qui vient de commencer, mais avec le bon équipement et
Par contre,
un petit peu d'expérience derrière, c'est largement possible.
C'est suffisant. Par contre, les gens qui, eux, ont l'habitude de faire de la randonnée où ils vont pouvoir... vraiment rouler en termes de marche, c'est-à-dire faire des 30, 40, 50 km dans la journée, il faut qu'ils s'attendent aussi à quelque chose de, comme tu le disais, tu l'as dit plusieurs fois, accidenté, vous ne pourrez pas monter à des kilométrages énormes. Donc c'est une randonnée vraiment unique en fait, en soi.
Oui, vraiment unique, et puis en même temps, ça te fait prendre le temps pour admirer les paysages. Donc,
Et les belles flaques devant toi.
Et les belles flaques debout, oui.
Ok, je pense que ça fait vraiment tout le tour du West Coast Trail. Donc merci d'avoir pu partager ton expérience.
Avec plaisir.
J'espère que ça donnera envie à plein de gens de partir et déjà sauter sur Google et aller sur Parc Canada et puis voir s'il reste des places disponibles pour l'été prochain, pour l'été 2020. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir participé à ma première interview. Ça me fait vraiment plaisir. Puis juste, tu peux nous dire avant de quitter un petit peu tes prochains défis cet été, peut-être quelques petites randonnées que tu veux faire ou...
Oui, je vais essayer un peu de randonner un peu au Québec. Et puis après, j'ai pour projet d'aller marcher une bonne semaine au Colorado cette année. Donc,
c'est ça.
Oui, exactement.
Un nouveau défi pour toi.
Tout à fait.
Cool. Bon, merci beaucoup, Alexandra. Et puis, j'espère que tu pourras revenir pour un autre épisode, peut-être un autre sujet, on verra.
Ça marche, merci.
Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Puis, à très bientôt, les amis. Bye bye.